Il est 8h.
Ça va être un beau match et ça va être accroché. Mais on va s'en sortir.
Mais ils ont une belle équipe aussi.
Bien sûr qu'il faut s'en méfier.
Non, mais on a une équipe qui est sur le papier la plus forte.
Il faudra être aussi fort sur le terrain que sur le papier. France-Allemagne ce soir, premier match des Bleus à l'Euro de football. Les supporters français se familiarisent tant bien que mal avec les règles sanitaires allemandes. Nous rejoignons l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Munich dès le début de ce journal. En France, il y aura ce soir une petite tolérance au couvre-feu de 23h. Pour les adolescents, l'heure de la vaccination a sonné. Un moyen de se rapprocher de l'immunité de groupe et de protéger ainsi toute la population. Et puis, première apparition et première audition de Nicolas Sarkozy aujourd'hui au procès de l'affaire Big Malion. L'ancien président est attendu à 13h30 face au juge. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je vais vous parler d'un autre match ce matin, le match dit des frères ennemis. En tous les cas, ce sera l'une des régions les plus observées dès dimanche soir après le premier tour des régionales, la région PACA. Et mon invité, c'est Thierry Mariani, la tête de liste du Rassemblement National. Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Frankreich ist favorite. Inutile de traduire ce titre d'un quotidien basé en Forêt-Noire. De leur côté, nos journaux se réjouissent de ce sommet franco-allemand. Ça, c'est le Parisien. De cette première gorgée de bière, ça, c'est pour l'équipe France-Allemagne. Un match 6 étoiles, une affiche mythique, porteuse tout autant de traumatismes que de rêves de se transcender. Alors, pour rentrer directement dans le rythme, les Bleus pourront compter sur un peu plus de 2000 supporters français. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, des supporters qui sont arrivés à Munich ces dernières heures.
Oui, on voit de plus en plus de maillots bleus dans les rues de Munich. J'ai notamment rencontré ces 5 Parisiens qui, dès leur arrivée, ont trinqué bière à la main à la santé de l'équipe de France. Mais attention, il y a un protocole Covid à respecter pour rentrer au stade et ce n'est pas simple de s'y retrouver.
Les règles sont pas très très claires. On est là, on galère à savoir ce qu'il faut faire. Alors en fait, soit on est double vacciné, soit on l'a déjà eu il y a moins de 6 mois, le Covid. Dans ce cas-là, il faut aller récupérer un bracelet au stade. Sinon, il faut faire un test.
D'ailleurs, en Bavière, il faut porter un masque.
Masque FFP, vaille. Alors qu'à l'extérieur, personne n'a de masque. La belle vie à Munich.
Oui, il s'agit d'un masque FFP2. Alors la France est bien sûr favorite, mais ses fans restent mesurés car c'est l'Allemagne en face.
Je pense qu'on est un peu trop confiant quand même, mais je pense que ça va être un beau match et ça va être accroché. Mais on va s'en sortir, j'ai pronostiqué dehors.
Mais ils ont une belle équipe aussi.
Bien sûr qu'il faut s'en méfier.
Toujours.
Non mais on a une équipe qui est sur le papier elle est plus forte.
On a une attaque qui est largement au-dessus. Défense, ça va. Franchement, normalement on doit gagner.
En tout cas, ce groupe de supporters, vous l'entendez, a promis de chanter une belle Marseillaise et de faire le maximum de bruit pour encourager les Bleus.
Contre nous de la
La Marseillaise au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie à Munich. Cyril, vous serez ce soir au commentaire avec Jean-François Pérez, soirée spéciale dès 20h et le match en intégralité à 21h sur Europe 1.
2000 supporters à Munich et, allez, disons 67 millions en France, sauf qu'en pleine pandémie, les autorités marchent sur un fil.
Après la dérogation au couvre-feu accordée vendredi soir aux spectateurs de Roland-Garros, pour ce soir, il y aura une tolérance. Jean-Gabriel Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
C'est le ministre de l'Intérieur qui le demande.
Voilà, c'est écrit noir sur blanc sur le télégramme qu'a envoyé Gérald Darmanin à tous les préfets hier soir. Le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre de faire preuve d'une particulière mansuétude dans le contrôle des personnes qui rentreraient chez elles après avoir regardé le match à l'extérieur de leur domicile. Mais le ministère le précise, cette tolérance ne saurait être un prétexte pour pouvoir prolonger la soirée dans des bars, des restaurants ou sur la voie publique. Gérald Darmanin insiste, l'horaire du couvre-feu reste fixé à 23h. Déjà, une dérogation exceptionnelle avait été accordée aux spectateurs de Roland-Garros vendredi dernier, et cette nouvelle indulgence pour le match des Bleus ce soir pourrait raviver le débat sur le maintien du couvre-feu. Une restriction de plus en plus difficile à faire respecter, les jours rallongent, l'épidémie recule, et l'envie de faire la fête s'impose pour beaucoup de jeunes. On l'a encore vu le week-end dernier, notamment sur l'esplanade des Invalides à Paris. Officiellement, le couvre-feu doit prendre fin le 30 juin, dernière étape du déconfinement.
Les précisions de Jean-Gabriel Bourgeois.
La pandémie et encore un élargissement de la campagne de vaccination. À partir de ce matin, ce sont les ados qui sont concernés, les plus de 12 ans.
Pfizer pour tous, accord écrit des deux parents nécessaires et présence de l'un des deux. L'infectiologue Odile Launay, responsable du centre de vaccinologie de l'hôpital Cochin à Paris, rappelait ce matin sur Europe 1 que les ados ne se vaccinent pas tant pour eux que pour les autres.
Le bénéfice pour eux, il n'est pas tellement un bénéfice sur leur santé physique, en tous les cas sur le risque d'avoir des formes graves de Covid qui sont exceptionnelles à cet âge, mais plus un bénéfice d'ordre à la fois social, familial, puisque ils ont été très impactés par la crise sanitaire et que l'idée, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir retourner au collège, au lycée, de pouvoir reprendre une activité sportive. Donc finalement, c'est un bénéfice plus sur leur possibilité de reprendre une vie plus proche de la normale. Et ça passe par une immunisation très large de cette tranche d'âge et de fait la limitation de la circulation du virus.
Odile Lenay, invitée du 5-7 de Sébastien Krebs ce matin.
Deux doses de vaccin, c'est fait en Israël chez 55% de la population. Alors à partir d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics fermés. À l'inverse, le Royaume-Uni, dont 57% des adultes ont pourtant reçu deux doses, retarde d'un mois les dernières étapes de son déconfinement. Le variant Delta, qui représente 96% des contaminations là-bas, fait repartir les hospitalisations à la hausse.
8h06 sur Europe 1, l'heure du jugement aujourd'hui au procès d'IKEA France.
Soupçonné d'avoir espionné des centaines de ses salariés entre 2009 et 2012, le parquet avait requis 2 millions d'euros d'amende contre l'entreprise et un an de prison ferme contre son ancien patron. Autre procès, l'affaire Big Malion et une audition clé cet après-midi, celle de Nicolas Sarkozy. C'est pour sa campagne présidentielle de 2012 que les dépenses avaient atteint presque le double du plafond autorisé, d'où la mise en place de fausses factures.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Europe 1. En plus de 3 semaines de débat, ce sera la première fois que l'ancien président est présent à l'audience.
Oui, et dès le premier jour, son avocat Thierry Herzog avait tenu à expliquer au tribunal pourquoi, selon lui, son client n'avait pas sa place sur le banc des prévenus et il avait indiqué que l'ancien président serait là quand on l'interrogerait. Un rendez-vous fixé donc cet après-midi à 13h30 pour répondre aux questions des juges. Alors sur le fond, contrairement aux 13 autres prévenus dans ce dossier, Nicolas Sarkozy n'est pas poursuivi pour fraude, mais pour financement illégal de sa campagne de 2012 avec ses 44 meetings, une campagne qui avait coûté plus de 42 millions d'euros, soit près du double du plafond légal de l'époque. Mais au terme de l'instruction, les juges avaient conclu que si le président candidat avait, je cite, incontestablement bénéficié de la fraude, ils avaient aussi conclu que ce dernier n'avait aucunement participé à la mise en place des fausses factures ayant permis à l'UMP de régler une partie des coûts et que rien n'indiquait qu'il en ait été informé. D'ailleurs, au terme de plus de 3 semaines de débat, le tribunal a toujours bien du mal à savoir qui a décidé de la mise en place de ce système frauduleux.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. À midi, à l'Élysée, une cérémonie qui ne sera pas filmée et pourtant, les observateurs politiques rêveraient d'y être pour scruter toute allusion à l'avenir. Édouard Philippe va en effet recevoir l'insigne de grand officier de la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron. Décoration attribuée à tous les premiers ministres restés au moins 2 ans en fonction.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, l'Iran. Et nous verrons avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran comment le régime écarte des centaines de candidatures aux élections. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal, François Geffrier.
3 jours avant l'élection présidentielle en Iran, les conservateurs semblent avoir un boulevard devant eux. Ils sont 5 parmi les 7 candidats et on ne parle là que des candidats autorisés à concourir puisque 600 candidatures ont été invalidées par le régime. À Téhéran, l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini, est allé à la rencontre de ses opposants qu'ils ne peuvent pas se présenter.
C'est dans le salon d'une résidence bien protégée que Sayed Tarjizadeh rumine l'annulation de sa candidature. Ancien cadre du ministère de l'Intérieur, il est très sévère avec les organisateurs du scrutin.
Tous ces dossiers invalidés, c'est du jamais vu. Je considère même que c'est un coup d'État car tous les concurrents qui étaient en mesure de battre le conservateur Ibrahim Raisi ont été écartés.
Pas de quoi gêner les commerçants du Grand Bazar. Leurs revenus ont chuté. Rasoul vend des fruits secs et il affirme que si les Iraniens consomment moins, ce n'est pas seulement à cause des sanctions internationales.
Ceux qui sont en place en ce moment sont responsables de la situation. Le président modéré gère mal ce pays. Alors j'irai voter pour ceux qui ont un plan.
Et les conservateurs ont un plan, dit-il. Un plan, c'est bien ce qui dérange Céline, jeune commerciale qui n'ira pas voter.
Mon bulletin ne changera rien, car la personne qui va gagner cette élection a déjà été désignée.
Ibrahim Raisi, c'est le seul nom qu'elle connaisse, comme si les 6 autres candidats passaient sous les radars de la population. Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Retour en France à présent avec cette initiative originale et rare dans le monde de l'art, puisque c'est une première, une vente aux enchères dédiée aux femmes artistes.
Oui, ce sera chez Christie's à Paris demain après-midi. 110 œuvres, photos, tableaux, sculptures, manuscrits. Le public peut d'ailleurs les découvrir jusqu'à ce soir, 18h, Diane Chénouda.
Une photo de Bettina Reims, une nana qui danse de Niki de Saint-Phalle. Et puis il y a cette lettre d'Edith Piaf, lettre de rupture envoyée à Yves Montand. Alice Chevrier, spécialiste en livres et manuscrits chez Christie's.
Elle termine d'ailleurs la lettre en écrivant « Je signe pour la dernière fois Pupus ». Donc ça reste malgré tout assez tendre. Néanmoins, quelques jours auparavant, elle avait reçu un télégramme de Yves Montand, avouant lui-même en fait qu'il se considérait comme trop jeune pour elle. Ils avaient en effet 6 ou 7 ans d'écart. Donc on est porté à se demander qui est vraiment celui qui quitte l'autre le premier.
À la vente également, de belles éditions originales, L'amant de Duras, Le deuxième sexe de Beauvoir, pour cette première vente consacrée aux femmes artistes.
Les femmes artistes ont toujours existé, évidemment, mais l'histoire de l'art ne leur a pas toujours laissé la place qu'elles méritaient. Donc on espère aussi qu'avec cette vente, on va pouvoir les mettre en lumière différemment et justement représenter la création féminine, de la bande dessinée à la haute couture, en passant par les beaux-arts.
Une vente estimée entre 2 et 3 millions d'euros.
Diane Chénouda, est noté qu'il y a aussi simultanément à Paris une exposition sur les peintres femmes de 1780 à 1830. C'est au musée du Luxembourg.
Merci beaucoup François Geffrier, c'est noté. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le candidat Rassemblement National, tête de liste, Région Sud, Thierry Mariani. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, la tête de liste du Rassemblement National pour les régionales dans la région sud, Thierry Mariani.
Bienvenue à vous et bonjour Thierry Mariani.
Bonjour.
Avant le match des régionales, parlons de l'autre match, évidemment le match des Bleus ce soir à l'Euro face à l'Allemagne. On va évidemment encourager notre équipe, une équipe qui a prévu, semble-t-il, de mettre un genou à terre en début de rencontre en signe de manifestation contre le racisme et les discriminations, gestes importés des États-Unis. Qu'en pensez-vous ?
Très sincèrement, je le regrette. Voilà. Black Lives Matter, c'est un drame. Mais c'est un drame qui s'est passé aux États-Unis. C'est un drame qui s'est passé avec la police américaine, la police française. Excusez-moi, n'a jamais eu ces dérives. Deuxièmement, c'est encore une opération importée d'un pays étranger qui n'a aucun rapport avec la France. Et puis moi, je suis attaché à la neutralité du sport. Je me souviens
que... Ça reste un geste symbolique plus que politique, non ?
Oui, mais petit à petit, vous savez, ces gestes symboliques ont aussi un message politique. Voilà, je ne vois pas quel est le message politique pour la France. On est tous contre l'antiracisme. Enfin, je veux dire, on est tous pour l'antiracisme,
oui,
pardon.
Attention, lapsus.
On est tous pour l'antiracisme. Mais les dérives de la police américaine ne concernent pas la police française. Et d'autre part, en France, les campagnes contre le racisme rassemblent tous les mouvements politiques. Voilà. Et donc, je vous rappelle que l'article 5 de la charte olympique rappelle la neutralité du sport. Je pense qu'on aurait dû en rester là et que le sport reste que le sport, mais c'est déjà beaucoup.
Neutralité du sport et il y aura mensuétude de la part des forces de l'ordre. Alors après, pour rentrer après le couvre-feu, mais pas de dérogation en tant que telle, pas de changement de règles, vous le comprenez pour le football et pour cette fête ?
Ce que je ne comprends pas, c'est dans ce cas-là, pourquoi on continue à maintenir ce couvre-feu jusqu'à 23h. Il y a une tolérance pour le match de tennis, une tolérance pour le match de foot. Pourquoi pas aussi demain, j'espère, pour le match de rugby et puis pour la fête de la grand-mère. Donc, il faut être cohérent.
Il y a de l'ironie, là, dans ce que vous dites.
Oui, parce que où c'est vraiment nécessaire, il faut le maintenir. Ou à chaque fois, il y a des événements médiatiques qui font que on suspend, entre guillemets, ce couvre-feu. Dans ce cas-là, arrêtez. Complètement.
Et on espère surtout qu'il y aura ce soir du beau jeu. Mais est-ce qu'il y a du beau jeu ? Là, j'en viens au match des régionales et surtout au match dit des frères ennemis. Thierry Mariani avec Renaud Muselier. C'est incroyable. Vous le traitez de traître pour son rapprochement avec LREM. Il vous renvoie l'ascenseur pour avoir trahi la droite. Franchement, quel niveau ? Quel niveau cette campagne ?
Je ne l'ai jamais traité de traître. Je suis désolé si vous trouvez une fois, je dis qu'il a trahi ses idées. Oui,
oui,
ça, bien sûr.
La nuance est ténue.
Oui, mais quand on prend sur sa liste, comme il l'a fait, 38 personnes qui soutiennent ouvertement M. Macron, quand en plus... Pour
il parle de 5 personnes, il les énumère, M.
Oui,
Renaud,
mais au début, il en parlait de 15, puis de 7, puis de 5. Je pense que d'ici le deuxième tour, il n'y en aura plus qu'un. Soyons sérieux, on a fait un vrai travail, c'est-à-dire quand on prend ces 123 candidats, on s'aperçoit que 38 soutiennent en réalité M. Macron. Prenons qu'un exemple dans les Bouches-du-Rhône, si vous voulez. Le référent de La République En Marche des Bouches-du-Rhône est sur la liste. Et les deux premiers de la liste au sénatorial sont aussi sur la liste. Voilà. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas en marche. Parce qu'en réalité, ils jouent sur les mots. M. Estrosi n'est pas en marche. Mais il soutient M. Macron. Madame Emeout, bah,
il est donc en marche vers Emmanuel Macron, quand même.
Bah, il y en a 38, alors mm-hmm. qu'ils sont effectivement en marche vers Emmanuel Macron, même s'ils n'ont pas la carte d'En Marche.
Et lui vous reproche, bon, vous êtes aujourd'hui au Rassemblement National, dit proche du Rassemblement National, mais il vous reproche en fait d'avoir trahi, d'avoir été le fossoyeur de la droite. Vous êtes resté, Thierry Mariani, plus de 40 ans dans la même formation politique. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui être le marchepied de Marine Le Pen en vue de 2022?
Je crois
vous
que...
dites clairement.
Non, écoutez, je suis resté 42 ans dans une formation politique où à l'époque, il y avait des quoi, des Seguin, des gens qui avaient des convictions, qui refusaient les compromissions. Je vous rappelle que j'avais créé la droite populaire en 2010 pour justement dire qu'il fallait ne pas oublier notre socle de droite. Aujourd'hui, ceux qui font, qui détruisent cette droite, c'est ceux qui ont fait des accords avec En Marche. Vous savez, quand j'ai vu après la campagne de Fillon, les ralliements de certains, je ne vais pas les énumérer, à Monsieur Macron. Et le silence relatif, l'embarras de ce parti. Aujourd'hui, ce parti n'a plus d'identité.
D'accord, mais c'est un rallié qui me dit cela ce matin. Vous aussi, comment vous avez pu combattre pendant tant d'années? Moi, je me souviens de vous, M. Mariani, le Rassemblement National, pour vous y retrouver aussi à l'aise aujourd'hui.
Parce que le Rassemblement National, ce n'est pas le Front National. Que les excès de langage d'une époque ne sont pas du tout le comportement de Marine Le Pen. Et qu'aujourd'hui, vous savez, quand je rencontre des militants du Rassemblement National, je m'en aperçois que combien, surtout dans ma région, me disent « j'étais avec vous au RPR, j'étais avec vous à l'UMP ». Les gens de droite ont compris qu'il n'y a plus rien à espérer de ce parti qui se dit de droite. Comment M. Jacob, qui d'abord refuse un accord avec En Marche, puis ensuite la valise, et puis ensuite vient de défendre dans le Sud une liste pour faire élire 38 personnes supportant M. Macron. Vous savez, si la liste de M. Muselier gagne, c'est à l'Élysée et à Matignon qu'on sablera d'abord le champagne.
Et vous, si vous gagnez, c'est grâce à qui?
C'est grâce d'abord aux habitants de notre région, c'est grâce à nos idées, puis c'est grâce, je pense, à l'espoir qu'on donne de faire en sorte que cette région ne passe pas de notable en notable, en réalité, se partage les postes et aujourd'hui évoque un hypothétique barrage républicain pour sauver, en réalité, leur fonction.
Alors, vous parlez des habitants, c'est très important, on va en venir au fond, mais tout d'abord, vous êtes passé politiquement, Thierry Mariani, de la maison de la droite à la maison Marine Le Pen, mais est-ce que vous savez physiquement où vous habitez aujourd'hui? Et où est-ce que vous payez vos impôts? Soyons clairs, hein, c'est en justice en ce moment et désormais, il y aura une requête étudiée demain. Est-ce que vous êtes un parachuté?
Écoutez, je suis très confiant sur la requête qui sera étudiée demain. Et puis, soyons sérieux deux minutes. J'ai été élu 3 fois maire et jamais battu maire de Valréas. J'ai été élu 2 fois conseiller général de l'enclave des Papes, jamais battu. J'ai été 4 fois député du Haut-Vaucluse, jamais battu. Vous croyez sincèrement, je suis né accessoirement à Orange, j'ai grandi à Aix-en-Provence et à Avignon.
Mais est-ce que vous avez un domicile fictif aujourd'hui? Est-ce que vous avez un domicile fictif aujourd'hui?
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et de toute façon, je suis, je le répète, tout à fait confiant. En réalité, c'est quoi? C'est M. Muselier est un peu pris en panique quand je vois, par exemple, comme il insulte ceux qui sont dans ma liste en disant c'est une bande de bons...
De soudoués. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça vole haut.
Oui, mais je répète, moi, je reste dans des limites du raisonnable. Et puis, je vais vous prendre un exemple, puisque M. Muselier a demandé, il y a quelques années, la nationalité mauricienne pour faire du business à l'île Maurice. Est-ce que je lui conteste la qualité
d'être... On a compris, les coups sont lâchés, tous les coups sont permis.
Non,
là.
Ça c'est la réalité, c'est un fait.
Mais tous les coups sont permis
reconnu.
Entre vous.
Mais est-ce que je vais dire aujourd'hui que M. Muselier, parce qu'il a voulu faire du business ou de la défiscalisation, j'en sais rien, à l'île Maurice, est aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas de Provence-Alpes-Côte d'Azur? Bien sûr qu'il l'est, comme je le suis. Voilà. Et je pense que ce genre de procès, vous savez, j'en suis aussi à ma 2e plainte en justice de M. Muselier. Parce que je dis, et je vais répéter une une fois de plus que, par exemple, il a plus de 200 personnes à son cabinet et à ses services communication. C'est pas moi qui le dis, c'est les magistrats de la Chambre régionale des comptes. Immédiatement, il dit
c'est la justice qui va devoir trancher. Mais avant, il y a quand même les habitants, même les citoyens, les électeurs. Je voudrais vraiment revenir sur le fond, Monsieur Mariani. Renaud Muselier affirme que vous allez couper, par exemple, c'est important, des subventions à la culture, que vous allez assombrir le rayonnement culturel et international de la région. Est-ce que vous pouvez dire ce matin à ce micro qu'il n'y aura pas de gel de subventions en fonction de leur orientation politique ?
Madame Abrouk, j'ai 62 ans. Regardez mon passé. J'ai été pendant 9 ans...
Vous allez me dire que ce n'est pas à cet âge-là qu'on...
Non, mais j'ai été pendant 9 ans vice-président du Conseil général de Vaucluse, où il y a un certain nombre de festivals. Donc, vice-président chargé de la culture et du tourisme. Est-ce que vous avez entendu parler de drame ? J'ai été maire. Je vous rappelle que dans ma ville, j'ai créé, ça existe toujours d'ailleurs, un festival de théâtre de rue. Quand on connaît le théâtre de rue, c'est plutôt subversif.
Les associations culturelles de gauche n'ont pas de soucis à se faire au cas où, M. Mariani est à la région.
J'ai été très clair. Je sanctuariserai les subventions en matière culturelle, c'est-à-dire qu'en aucun cas, elles ne seront inférieures. J'essaierai même de les augmenter. Et puis, regardons un exemple à côté dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. David Racheline, Fréjus. Vous vous souvenez de tout ce qu'on avait entendu sur la culture ? Varmatin, qui n'est pas vraiment un journal qui fait campagne pour nous, hier titré sur 2 pages « Réunir tous les arts pour un été culturel et libre » en annonçant le programme de Fréjus. Donc c'est le dernier épouvantail qu'il trouve encore, mais ce n'est pas très sérieux.
Il y a la culture, il y a la lutte contre l'insécurité et je note aussi que vous faites campagne, M. Mariani, sur le thème de la lutte contre l'islamisme que vous souhaitez éradiquer. Mais en quoi ? Est-ce une compétence régionale et comment pouvez-vous le faire ?
Déjà, écoutez, en ne commençant pas à se compromettre avec certains. Quand je vois par exemple que l'ambassadeur du Qatar, qui est un sponsor de l'islamisme à travers le monde, est reçu en grande pompe par M. Muselier et M. Estrosi...
Vous savez ce qu'ils vont vous opposer, d'être le meilleur ami des autocrates aujourd'hui dans le monde ?
Oui, mais excusez-moi, au moins...
Chacun doit choisir
ses
amis dans ce cas-là.
Cela n'organise pas des attentats dans le monde entier. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui menace la France.
Oui, mais est-ce qu'il faut faire une hiérarchie entre les bons et les moins bons, M. Mariani,
ceux
avec qui
menacent
qui on est
la France, pour moi, sont les moins bons. Voilà, c'est tout. Et puis après, si vous faites référence à mes relations avec la Russie, le dernier soldat russe a quitté le territoire français en 1815, voilà, du temps de Napoléon. Donc, il faut quand même hiérarchiser les menaces. La menace aujourd'hui, c'est l'islamisme. Voilà. Et puis, pourquoi ils nous attaquent aussi ? Parce que, par exemple, dans ma liste, j'ai des gens qui ont fait condamner M. Estrosi parce que justement, il avait fait condamner la ville de Nice pour avoir mis à disposition à un prix très préférentiel des locaux pour une mosquée islamiste. Donc je pense que oui, dans cette région, il faut être extrêmement attentif.
Monsieur Mariani, en écoutant ce matin ces déclarations et ces coups portés les uns aux autres, et si c'était elle la grande gagnante ? L'abstention.
Ah, je cherchais.
Mais oui, mais est-ce que vous êtes inquiet du niveau annoncé de cette abstention ce dimanche ?
Non, je crains, moi, je crains le désespoir, surtout. Le désespoir parce que beaucoup d'électeurs ont l'impression que en votant dans cette région, en votant en France, on ne peut rien changer. Et moi, je leur dis très clairement, vous avez l'occasion unique pour une fois de changer dans une région et d'avoir une autre majorité. Et ma majorité, je vous le répète, les 3/4 viennent du Rassemblement National, 1/4 n'est pas issu du Rassemblement National. Ce sont des professionnels, des personnes qui, comme moi, sont issues de la droite classique.
Là, vous cherchez à rassurer
classique.
En disant cela ? Non, il faut gommer un peu le Rassemblement National.
Pas rassuré, mais quand j'entends dire que c'est une liste de sous-doués, j'ai l'impression que M. Muselier devient vraiment macronien. Vous savez, quand M. Macron disait je suis dans un lieu où il y avait des Français qui ne sont rien, eh bien pour moi, il n'y a pas de Français sous-doués ou qui ne sont rien. Il y a des Français qui simplement aiment leur région, aiment leur pays.
Quelle dernière ligne droite dans cette campagne. Merci M. Mariani d'avoir été notre invité ce matin, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info, Marion Calais, la météo de Laurent Cabrol et le journal de l'Euro. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, le rappel de l'info avec Marion Calais.
L'actualité en trois grands titres ce matin. D'abord, l'ouverture de la vaccination aux adolescents à partir d'aujourd'hui. Les enfants dès 12 ans peuvent y prétendre avec consentement oral, accompagnement d'un parent et accord écrit des parents. Ce mardi aussi, l'interrogatoire de Nicolas Sarkozy dans le procès Big Malion et les soupçons de fausse facturation liés à la campagne présidentielle de 2012. L'ancien chef de l'État poursuivi pour financement illégal de campagne dans ce dossier. Et puis Allemagne-France, ce soir à partir de 21h, on va y revenir dans un instant dans le journal de l'Euro, avec pour ceux qui suivront le match dans un bar ou chez des amis, une mansuétude demandée par le ministère de l'Intérieur pour les contrôles liés au couvre-feu. Dans ce cas-là, pourquoi continuer à le maintenir à 23h? S'étonne ce matin Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement National au Régional en PAC, a été l'invité d'Europe 1 il y a quelques minutes.
Mais du coup, Marion, il n'y a pas de nouvelle attestation, j'ai été voir le match chez des amis. Non, ça c'est pas nécessaire. Merci Marion Calais. 8h31, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Avec une journée très ensoleillée, vous l'imaginez, une journée vraiment au ciel limpide et des températures un peu plus élevées que celles d'hier, mais un peu moins que celles de demain, puisque demain elles atteindront leur point culminant. Nous aurons aujourd'hui 31, 32, 33 du côté de Paris, La Rochelle et Nancy, 34 à Bordeaux, Lyon et Toulouse, pour ne citer que ces villes, et 37 dans les Cévennes. Bref, ce sont des températures extrêmement élevées. Et si vous vous promenez à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales, vous aurez 3300 degrés produits par le four solaire de cette station. Cette station la plus ensoleillée de France, un four solaire extraordinaire, c'est l'un des plus grands du monde à visiter.
On va parler de cuisson avec le soleil, avec Fanny Agostini. Vous ne pouviez pas mieux tomber avec votre four solaire. Merci beaucoup Laurent Cabrol, il est 8h32. Le journal de l'Euro, c'est avec Simon Rubin ce matin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Ça y est Simon, c'est le jour J pour les Bleus. Ce soir, 21h, l'équipe de France débute son Euro face à l'Allemagne.
Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, eh bien ce sera à Munich. Hein. Alors pour se rassurer, on peut se rappeler qu'en novembre dernier, l'Allemagne avait perdu 6-0 contre l'Espagne, qu'elle avait raté en 2018 sa Coupe du Monde et que depuis 3 ans, l'entraîneur Joachim Löw est très critiqué. Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, est d'ailleurs conscient du contexte, mais méfiance.
C'est un match d'ouverture dans une poule qui sera très relevée. Et les Allemands, qui sont sur une phase peut-être de reconstruction, ils ont fait appel à des anciens également. Mais c'est une grande nation du football avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens, qui ont l'habitude de gagner en club. Alors on s'attend à un match très difficile comme premier match du tournoi.
Match à 21h et donc évidemment à suivre en intégralité sur Europe 1.
Oui, soirée spéciale dès 20h même. On reste avec les Bleus, Simon, c'est le portrait du jour. Et ce matin, un joueur dont on attend beaucoup, Paul Pogba.
Et oui, une star, un talent, mais aussi une inconstance dans la performance qui lui a parfois joué des tours. Paul Pogba, lui qui avait été l'un des grands joueurs du Mondial 2018, vu par l'entraîneur adjoint des Bleus, Guy Stéphan.
Il a beaucoup gagné en expérience et il a pris beaucoup de place à la Coupe du Monde. C'est sûrement celui qui a impulsé le plus le fait que c'était pas suffisant de gagner en huitième de finale, c'était pas suffisant de gagner en quart de finale, c'était pas suffisant de gagner en demi-finale. Il fallait aller jusqu'au bout et gagner la finale.
Et on termine avec le programme du jour, parce qu'il n'y a pas que les Bleus dans la vie.
Oui, 2 matchs seulement aujourd'hui. Hein. Et avant l'équipe de France, le très attendu Hongrie-Portugal à Budapest, attendu pour 2 raisons. D'abord, c'est l'entrée en lice du Portugal champion d'Europe en titre, qui présente une équipe extrêmement forte. Ce sont aussi 2 futurs adversaires des Bleus, hein, dont on aura un œil sur ce match pour voir ce qui attend la France. Et puis, c'est aussi un vrai test pour l'organisation de l'Euro, puisque le stade de Budapest sera plein, plus de 60 000 spectateurs annoncés par l'UEFA. C'est le seul stade qui a pris ce risque en pleine pandémie. Tous les locaux devront avoir été vaccinés pour assister au match. Test PCR de moins de 48 heures, exigé pour les étrangers.
Merci beaucoup Simon Rubin, c'était le journal de l'Euro, c'est tous les matins, et c'est bien sûr sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, l'heure de retrouver le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé, ce matin vous nous proposez de respecter tout simplement notre rythme biologique et surtout notre horloge biologique.
Oui, nous sommes tous programmés, grosso modo, pour être soit du matin, soit du soir, ou entre les deux. Ceux qui sont du matin auront tendance à se coucher tôt, c'est-à-dire avant 22h, et se lever tôt sans trop de difficultés. Tandis que les couches tard auront tendance à repousser l'heure du coucher et auront du mal le matin à se lever et à démarrer la journée lorsqu'elle commence trop tôt. Il y aurait environ 25% de lève-tôt dans la population, 25% de lève-tard, et le reste qui serait entre les deux. C'est ce qu'on appelle le chronotype. Et ce chronotype est déterminé par notre patrimoine génétique. En clair, On est comme cela, il est quasiment impossible de lutter contre nos rythmes biologiques.
Mmh. Et que se passe-t-il alors si on est un couche-tard qui doit se lever tôt ?
Eh bien, c'est tout le problème, car notre société est plutôt calée sur les lève-tôt en règle générale. On travaille le matin, il faut emmener les enfants à l'école, et le soir, il ne se passe plus grand-chose. Le problème est que lorsque vous êtes en décalage entre votre horloge biologique et votre mode de vie, vous êtes plus à risque, d'après une étude récente portant sur plus de 80 000 personnes, d'avoir une moins bonne qualité de vie et de souffrir davantage d'anxiété, mais aussi de dépression. D'ailleurs, il semblerait que les lève-tôt seraient davantage protégés de la dépression et auraient une meilleure sensation de bien-être car, encore une fois, notre vie est calée plutôt sur les lève-tôt.
Et comment savoir alors si on souffre de décalage entre celui de notre horloge biologique et celui imposé par le travail, par exemple ?
Eh bien, c'est assez simple. Pour savoir si vous êtes en décalage horaire social, il suffit d'observer vos rythmes naturels sans contrainte pendant le week-end ou les vacances. Si vous vous levez plus de 2 heures après l'heure habituelle en semaine, c'est que votre rythme biologique n'est pas adapté. Alors attention, il est possible le week-end de rattraper une dette de sommeil en semaine et il est donc naturel de vous réveiller un peu plus tard. L'idéal étant d'observer votre rythme naturel pendant les vacances, sur une dizaine de jours, en vous couchant et en vous levant, sans trop vous mettre de contraintes. Vous aurez une bonne idée du tempo de votre rythme biologique qu'il faudra respecter pour tout simplement rester en bonne santé.
Merci Jimmy Mohamed et à tout à l'heure entre 15h et 16h avec vous Jimmy et Mélanie Gomez. Sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1, 8h39. Fanny Agostini avec nous, Notre Planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin Fanny, vous nous parlez d'un nouveau mode de cuisson écologique pour les restaurateurs, la cuisson solaire.
Oui, le restaurant Le Présage à Marseille est le premier à utiliser ce prototype en Europe. Voilà comment ça se passe. À l'heure du déjeuner, l'équipe déploie à l'extérieur du restaurant une parabole faite de miroirs qui réfléchissent les rayons solaires vers un foyer situé à l'intérieur du restaurant. Les rayons viennent faire chauffer une plaque en fonte jusqu'à 300 degrés en une vingtaine de minutes seulement. Le dispositif permet au restaurant de mettre à profit les 300 jours d'ensoleillement de la métropole marseillaise. Le restaurant en profite pour adapter sa carte puisque la chaleur est concentrée au milieu de la plaque. Pas question de faire bouillir 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâte. On optimise la plaque en fonte en utilisant le centre pour saisir des aliments et les côtés pour en faire mijoter d'autres.
On pourrait reparler de la cuisson des pâtes hein, parce que là il y a débat. Mais bon, c'est une opportunité en tout cas pour les restaurateurs de diminuer leurs factures énergétiques et leurs émissions carbone.
Tout à fait, la cuisson des plats représente en moyenne 30% des dépenses énergétiques d'un restaurant. Dépenses énergétiques qui elles-mêmes représentent 10% des émissions carbone du secteur. Si la parabole solaire est évidemment un investissement, c'est une manière d'économiser sur la durée et de ne cuire à l'électricité que lorsque le soleil se cache. L'approche de ce restaurant marseillais pour diminuer son empreinte carbone va d'ailleurs au-delà de la parabole. Les aliments sont bio et locaux. Le fondateur ingénieur du restaurant cherche à récupérer le méthane des déchets et à irriguer les cultures avoisinantes avec l'eau utilisée en cuisine.
Vous dites que la solution de cuisine solaire existe ailleurs, et notamment quand on n'a pas accès aux énergies conventionnelles.
Oui, une alliance internationale basée en Inde cherche à faire démocratiser la cuisson solaire. Elle s'appelle la Solar Cookers International. Les femmes y sont en première ligne car dans de nombreux pays où l'accès aux ressources électriques, pétrolières, gazières ou forestières est difficile, c'est elles qui sont de corvée de collecte de carburant et de cuisson. Il y a donc un véritable enjeu humanitaire derrière le déploiement de technologies accessibles permettant d'optimiser la captation lumineuse à des fins culinaires.
Merci Fanny Agostini. Notre Planète, tous les matins, sur Europe 1, 8h41. Dans un instant, Nicolas Canteloup et Julie qui arrivent. La revue de presse, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h44 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, on y va. Et on retrouve Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Oui, bien sûr qu'on y va, Julie. Bonjour Julie, bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1. Europe 1 regarde le monde changer, mais regarde le monde fouté. Et oui, fouté, on ne parle que de fouté ce matin. Le Covid, les Français, il faut se rendre à l'évidence, en ont assez. Et les régionales, ils n'en ont pas grand-chose à faire non plus. Du coup, on s'adapte et on ne va vous parler que football. L'info du jour, c'est qu'on va tous supporter Bien sûr, ces jeunes sportifs qui ce soir vont suer, souffrir et essayer d'offrir du bonheur aux spectateurs pendant le match. Non, je ne parle pas, vous l'avez bien compris, des joueurs de l'équipe de France, mais des livreurs, Deliveroo. Oui, c'est du sport, c'est du sport. Et je crois qu'ils sont, d'après les infos que j'ai eues la rédaction au niveau économie, ils sont un chouïa moins bien payés que les Bleus. Allez, je crois. L'autre info, c'est Gérald Darmanin, vous l'avez entendu, qui a appelé les forces de l'ordre à faire preuve de mansuétude dans le contrôle des personnes qui rentreraient chez elles après avoir regardé le match à l'extérieur. Oula, je me rends compte que ça fait, Julie, on en est d'accord, ça fait 2 heures qu'on utilise le mot mansuétude et c'est vrai que... Oh oui, faire preuve de mansuétude. Oh. C'est le retour de votre Stéphane Bern national. Faire preuve de mansuétude, qui se dit en espagnol, en Espagne l'expression est la suivante, on le dit rajoutare crevetas dans la paella.
Oui, c'est ça, ouais.
Qui veut dire rajouter des crevettes dans la paella. Oui, parfois on perd un petit peu la traduction. En Allemagne, on dit nicht eine Mercedes über Holen. Ne pas doubler la Mercedes. Et en Russie, en Corée. Oui, ça n'a rien à voir. Et en Russie, en Corée. Oui, mais j'hésite pas. En Russie, en Corée, c'est amusant, l'expression faire preuve de mansuétude n'existe pas, ma chère Julie. Car là-bas, en Corée, en Corée du Nord et en Russie, le mot n'existe pas.
Oui, d'accord. Oui. C'est une bonne
idée. Écoutez, merci. Merci Stéphane. C'est vrai, parfois, Stéphane Bern, la force de Stéphane, c'est que parfois on est plus paumé après ses explications qu'avant. Bref, on a utilisé l'expression faire preuve de mansuétude alors qu'on parle à des fans de foot. Alors, c'est vrai, non, mais on est en décalage. Alors, toutes nos excuses, en gros, on va vous expliquer. Si vous nous écoutez, supporters de foot, vous ce soir, pouvoir rentrer plus tard après bière et ballon. Voilà, vous comprendre. Voilà, c'est aussi ça le journalisme, traduire des mots difficiles, savoir s'exprimer dans le langage de son auditoire.
Oui, sans mépris aucun. Allez, merci
non,
Mathieu.
Non, pas du tout, on a perdu personne. Allez.
Couvre-feu non respecté, des fêtes géantes aux quatre coins de Paris, des stades de rugby avec plus de 5000 spectateurs. Jean Castex, bonjour, mais plus personne ne respecte les gestes barrières, on dirait. Hein.
Et plus personne ne respecte, non, il faut respecter, je le dis, les gestes barrières, les jeunes, hein, si vous nous écoutez. Et c'est quand même Mark Fly et Palmito qui l'ont dit.
Non mais sérieusement, c'est très inquiétant ce qui se passe actuellement, l'épidémie pourrait repartir d'ailleurs.
Ce qui est inquiétant, c'est qu'entre les plus grands spécialistes mondiaux qui disent « Faites encore très attention et Francis Lalanne qui lui dit « Sortez sans masque, embrassez-vous », les Français préfèrent écouter Francis Lalanne. Donc là, oui, c'est même assez, comment dire, ça fait peur. Hein, comme disait, c'est flippant, c'est comme assez flippant, comme disent les jeunes.
Ouais, si les Français si les Français se mettent à écouter Francis Lalanne, c'est pas rassurant, effectivement.
Oui, c'est même la première fois de leur vie qu'ils écoutent Francis Lalanne. Hein, quand il était chanteur, nous le savons tous, personne ne l'écoutait. Mais maintenant qu'il est complotiste, c'est un véritable carton.
On a l'impression que la situation est hors de contrôle et que vous n'avez plus d'autorité sur le peuple.
Non, j'ai de l'autorité.
Ah bon?
Je le dis fermement. Terminé les fêtes clandestines. Non, pas une fête en bas de la rue de Rampin. Non, s'il vous plaît, montrez l'exemple. Monsieur Béliard, remettez votre chemise. Jean, laisse tomber, Jean, je vais le faire, j'espère.
Emmanuel Macron, bonjour. Alors, les Bleus commencent l'Euro ce soir, mais on ne pourra pas regarder le match en terrasse. Et le couvre-feu est maintenu à 23h.
Oui.
Vous aviez accordé une dérogation pourtant aux spectateurs de Roland-Garros qui avaient chanté « Merci Macron ». Et rien pour les amateurs de foot, alors.
Vous avez noté, oui. Vous savez, les spectateurs de Roland-Garros, on les connaît. Ils mettent des polos couleur abricot, des Rolex, ils boivent calmement un thé chinois. Donc on sait pertinemment qu'ils rentreront poliment chez eux sans faire de bruit. Mais un supporter de foot, qu'est-ce qu'il fait, hein? Il va aller hurler des chansons paillardes jusqu'à 4h du matin. Hein, il va montrer ses fesses aux policiers et vomir sur le mobilier urbain, on le connaît. Pour les supporters de foot, le couvre-feu restera à 23h.
Ah bon.
Et qu'ils ne se plaignent pas, je pourrais même faire un couvre-feu spécial foot à 14h30.
Oui, c'est ça. pas oublié quand même. Hein. Merci, Monsieur le Président.
Merci.
Arnaud Montebourg revient sur le devant de la scène après avoir accusé le coup suite à un long Covid. Ah, voilà. Ses proches le disent, il est remonté sur le cheval.
Eh ouais, ma Juju. Ça y est, hein, mon Lolo. T'as vu, je remonte sur le ring. Ah, le ring, je rechausse les gants. Hein, je vais au combat. 2022. Me voilà.
Mais pourquoi vous avez disparu? Vous commenciez un Tour de France, vous disiez que vous étiez prêt pour 2022 et puis plus rien.
Et puis plus rien. Ah, t'as tout compris, ma Juju. À cause d'un détail. Ah. Parce que je te dis tout à toi, parce que je t'aime bien. La mouche dans le lait. La coucougnette dans le potage.
Ah, le Covid, en fait.
Non, les gens.
Les gens.
Dès qu'on demande aux gens s'ils voteraient Montebourg, je suis dernier dans les sondages. Mais là, je vais te dire une chose. J'ai changé de stratégie, je m'en fous. Ça veut rien dire, les sondages. Ça y est, je suis prêt, je suis décidé à me lancer.
Pardon, mais j'ai l'impression que ça fait 6 mois que tous les mois, vous êtes décidé à vous lancer.
Alors,
c'est un peu ça quand même.
C'est pas faux ce que tu dis, ma Juju. Toi, t'es une fine observatrice. Hein. C'est vrai que tous les mois, je tâte le terrain. Je l'ai tâté dans tous les sens, le terrain. À chaque fois, je dis, je crois que je suis prêt. Et finalement, j'attends.
Mais vous attendez.
J'attends qu'on me réponde. Qu'on me réponde, mais c'est génial, mon Arnaud. Tu y vas vraiment, mais tu es celui qu'on attendait depuis toujours.
Et ils disent ça, les gens.
Ben non, justement. C'est bien pour ça que je reviens tous les mois. Si tu veux une image, moi, Juju.
Oui.
J'arrive, je me mets devant l'eau, je mouille la nuque et je dis « Oh non, putain, elle est trop froide !» et je ressors.
Merci Arnaud Montebourg, bonne chance quand même pour la suite.
C'est gentil, ma Juju.
Allez, autre chose, des records de chaleur sont battus en ce moment. Hein. On va voir ce qu'on en pense dans l'heure des pros avec Pascal Pro.
Et oui, petite erreur de jingle, pardonnez-nous en régie, ils sont fatigués, c'est la fin de saison, c'est normal, on salue Jean Le Naff et toute son équipe, bonjour, oui, ce n'est que le début, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros, température estivale, canicule précoce, et non pas préposse, prépuce, oh là là, où va-t-on, canicule précoce, en tout cas c'est, vous l'avez compris mon cher Mathieu, chère Julie, chère Laurent, c'est l'occasion pour les gauchistes et les écologistes de reparler, bien sûr, de leur sujet favori du réchauffement climatique. Eh bien oui, bien sûr, ils n'attendaient que ça pour remettre cela sur le tapis. Même si, eh bien, disons-le, il a fait 4 degrés, on l'oublie un peu trop vite, début juin, et qu'on a tous chopé la crève à la réouverture des terrasses. Hein ? Alors, les écolos ont-ils tort ? C'est notre débat d'aujourd'hui. Ont-ils tort ou bien sont-ils simplement manipulés par le lobby du quinoa ?
Le lobby du quinoa.
On a le choix entre ces deux-là.
Oui, le choix entre ces deux options, mon cher Mathieu, sont possibles. Ne soyons pas sectaires, s'il vous plaît. Nous sommes sur Europe 1, bien sûr. On va parler de tout cela avec nos éditorialistes écolos. Je vous présente Éric Zemmour, que l'on ne présente plus, dans Rio Folle, Jean-Claude Dacier. Et puis, un ami de gauche, Robert Ménard. Un peu de diversité ne fait pas de mal. Messieurs, on va commencer. Tiens, par vous, Yvan, réveillez-vous, s'il vous plaît. Yvan Rioufol, le réchauffement climatique, vous y croyez, vous, mon cher Yvan?
Oh, ben en même temps, il fait chaud.
Oui, il fait chaud, mais enfin, n'oubliez pas, cher Yvan, que cet hiver, on a eu froid quand même. Non, franchement, Yvan, ne soyez pas impartial.
Voyons. On a eu froid cet hiver. En plus, j'étais en vacances en Norvège et il a neigé.
Eh bien voilà. Mais c'est bien ce témoignage de Yvan. Mais c'est bien parce qu'il va sur le terrain, lui, au moins. Et on voit, il le dit à l'instant, vous voyez, de chers auditeurs, on voit qu'il neige en Norvège l'hiver et qu'on se les gèle. Mais parlons trivialement, un monde qui se réchauffe, c'est pas un monde où il y a de la neige. Non, c'est pas un monde où il y a de la neige, excusez-moi. Oui, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses à la fin, il faut oser dire les choses. Qu'est-ce qui nous prouve en plus l'existence du réchauffement climatique, à part les scientifiques qui nous le prouvent? Parce que les scientifiques, on les connaît. On les connaît. C'est les mêmes qui nous disent qu'il faut se faire vacciner. Mais excusez-moi, mais l'autre jour, quand même, on recevait Nicolas Dupont-Aignan et Philippe de Villiers. C'est quand même pas n'importe qui. Et ils disaient le contraire. Alors, Je le dis, je lance un appel aux scientifiques, modestement, les scientifiques, calmez-vous s'il vous plaît, un peu d'humilité, non mais c'est vrai, excusez-moi, je suis désolé. Mais oui, mais c'est ainsi, voilà, bon, je crois qu'on a bien avancé dans ce débat, on se retrouve demain pour un nouveau numéro et nous recevrons, alors ne loupez pas notre rendez-vous demain puisque nous recevrons un homme très intéressant, passionnant, qui pense que la Terre est plate et il viendra nous le démontrer. À vous Julie.
Merci Pascal Praud. Remarquable. Allez, ce soir, c'est donc le premier match de l'équipe de France pour l'Euro. Les Bleus vont affronter l'Allemagne. On accueille tout de suite Didier Deschamps. Bonjour Didier, c'est un peu oui. Le match de la peur quand même.
Ah,
hein.
Le match de la peur, oui, bonjour. Oui. Bon, écoutez, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'adversaire de ce calibre depuis environ 154 matchs. Bon, là, c'est sûr que jouer contre le Kazakhstan, jouer contre Andorre ou la Moldavie, ça permet d'enquiller les victoires. Battre des jardiniers et des éleveurs de moutons qui vivent dans des régions où il n'y a pas encore des portraits de Staline dans les écoles, c'est vrai que c'est plutôt facile. Mais du coup, quand on a un adversaire un peu sérieux, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dois vous le dire dans le groupe, tout le monde a les chocottes.
Alors dites-nous, est-ce que la petite brouille entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud est terminée? Vous savez qu'Mbappé avait pris pour lui que Giroud se plaigne de ne pas recevoir assez de passes.
Oui, écoutez, non, c'est vrai que tout cela est derrière nous. Ça a été monté en épingle, je crois, par vous un petit peu aussi les médias. Bon, je ne vous en veux pas, pas sur Europe 1, bien sûr, qui n'est pas un média comme les autres. Mais Kylian s'est exprimé, je crois qu'aujourd'hui tout va bien, il peut en témoigner. Bon.
Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre d'intervenir à nouveau, le coach a raison, il n'y a aucune embrouille entre Olivier Giroud et moi.
Voyez.
On a discuté tous les deux, je lui ai dit que j'avais mal pris qu'il s'exprime publiquement à ce sujet. C'est vrai qu'il s'est excusé, Olivier. Moi, j'ai traité de mon côté d'enculé. Bon, c'est bon, là, tout va bien.
Oui, bon, Kylian, c'est bon, ça va. Vous allez vous détendre tous, hein, parce que l'important, c'est quand même l'équipe. Alors faites des efforts pour vous adapter au jeu des uns et des autres.
Hein, okay. Non, mais bien sûr, coach, pas de souci. Je suivrai vos consignes, coach. S'il faut abaisser mon niveau de jeu pour m'adapter à son style de jeu de merde, à Giroud, je le ferai avec plaisir. L'important, c'est le collectif et la compétition qu'on doit affronter bientôt. Et bien voilà. Sûr, dans la plus grande sérénité.
Voilà, bon, c'est bien dit ça. C'est vous voyez, même Julie, le groupe est solidaire. Chacun, je crois, comprend qu'il faut faire preuve d'un peu d'adaptation.
Bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse à retrouver sur Europe1.fr. On salue Philippe Caverivière, Laurent Vassilion et Arnaud Demanche, les auteurs de la revue de presse. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Mathieu.
Culture Média va démarrer sur Europe 1.
Oui, avec notre infomédia pour démarrer, on va s'intéresser à la revue Science et Vie. Il y a quelques mois, Science et Vie traversait une grosse crise avec la démission de son rédacteur en chef, suivie de la quasi-totalité de la rédaction. Tout ça à cause du rachat du titre par Reworld Media. La diffusion ne s'est pourtant pas arrêtée. Une autre équipe s'est constituée avec un nouveau rédacteur chef Thomas Cavaillé-Foll. Il sera avec nous. Au sommaire également, vous savez qu'il y a France-Allemagne ce soir.
Arrête-t-il.
Autour du match, avant, après, un nouveau magazine sur M6 qui s'appelle 100% Euro. Il est présenté par la journaliste Marie Portolano, transfuge de Canal+, elle sera avec nous et c'est elle également l'auteur de ce fameux documentaire qui a fait parler jusqu'aux États-Unis, en Australie. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Elle sera à ce micro. Elle va présenter également sur M6 des gros primes. On va en parler. Enfin, la chanteuse Joyce Jonathan qui revient avec un nouveau single, un joli petit titre. Ça s'appelle Les Petites Jolies Choses.
Et c'est sur Europe 1, Culture Média, 9h-11h avec Philippe Vandel. Évidemment, joli programme. 8h58, je vais vous souhaiter une très belle journée. Elle le sera, belle. Je vous souhaite un très bon match.
Ouais.
France-Allemagne ce soir. Moi, je vous retrouve demain matin en direct dès 7h pour reparler de tout ça. D'ici là, le monde aura changé.
Pour donner le score.
On va vous le raconter.